m'entends-tu, gros pet?
Salut, ici Dave Morissette.
Ah, mon Dieu, mais ça marche d'une seule shot en plus. On est vraiment rendu top qualité technique.
Et le Canadien va gagner la Coupe Stanley avec Jim Carrey.
Ça sent la coco.
Ciao! Si le Canadien aurait marché juste au carburant de la violence...
Regardons les choses
pas grandes,
là, c'est juste...
C'est un os. Il est fort comme un cheval, mais quand on parle de cheval, c'est une pièce d'homme, c'est fort.
Il n'a pas ses bâtons, il n'est pas capable de faire un antitrapé.
Mais maintenant, ça va mieux.
C'est une équipe qui n'a pas participé aux éliminatoires.
Au Kovalev qui s'amène, non! Je le tire seul devant le gardien, mais la rondelle restait coincée dans les airs.
Ah ben, tu parles d'un jeu bizarre.
Introduction.
Oui.
Ouvrir la parenthèse, 5 minutes. Fermer la parenthèse. Bonsoir, podcast.
Les sportifs.
16. C'est ce soir que ça se passe, le 16e. Comment allez-vous tout le monde? J'ai autour de la table à ma gauche nul autre que Paul.
Bonjour
Meilleur,
tout le monde.
Au coin.
Tout à fait.
Comment ça va, Paul?
Très bien,
vous-même. Au oui. coin. Ça va,
ça
bien?
Va, ça va très bien.
Good, good.
Je trouve vos salutations insistantes.
Oui, c'est parce que je vous aime. Et à ma droite, j'ai comme d'habitude l'éternel et l'unique, l'homme de fer qu'on l'appelle à l'intérieur de nos cercles fermés, Yvan Piquette.
Salut.
Comment ça va, Yvan?
Wow. Il n'a pas pris de chance, hein. Il y est allé d'un court salut pour pas que vous en rajoutiez.
C'est parce ça. Qu'il y a le timer qui roule.
Et j'ai devant moi nul autre que...
L'absence lui-même de Normand.
Leblanc, qui n'est pas là aujourd'hui. Il a décidé d'aller peinturlurer le mur d'un de ses amis.
Bon,
donc, c'est
on lui
son
souhaite
choix.
Bonne chance.
Bon, c'est son
il fait
choix.
Très chaud, très humide aujourd'hui.
Oui, mais il a décidé quand même, je pense, de jouer une game de tennis dans la pièce de bureau.
Et il nous a dit tout à l'heure qu'il allait nous appeler pendant sa game de tennis.
Oui, quelque chose comme ça, mais on ne répondra pas. écoutez, on a beaucoup de choses à traiter en moins de 3 minutes 41 qui nous restent. Évidemment, il faut faire le retour sur le concours de chansons et où ça en est rendu. Je suis à monter un hymne national en ce moment qui va se terminer par une phrase célèbre qui a été rendue célèbre par Normand Leblanc et qui s'appelle ou s'intitule « Trick up your ass ». Ça va être la finale, je pense, et qui a remporté beaucoup de victoires. Est-ce que vous rappelez de cette chanson-là?
Ça me dit vaguement quelque chose.
Dieu, j'ai échappé mes lunettes de soleil.
Ah. J'ai peur que ce soit les...
Mais moi, je vais vous le dire, c'est ma chanson préférée et je vais demander à Bruno de presse sur play, Bruno.
Ben, ah. Presse-nous ça. Et là, il cherche, là.
Ah ouais?
C'est... Oh.
Il est pas assez grand.
Ah, c'est
OK,
là,
c'est
ça
bon.
Part.
C'est bon.
Ah, bon. Alors là, on va finir cette introduction-là avec ce rythme-là, OK?
OK.
Alors, sachez que ça s'en vient. Maintenant, on va faire le point numéro 2. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'écouter Paul Marois sur le pornographe?
Ben, moi, je le sais déjà. C'est moi qui l'ai fait. Je vous pose la question.
Ah, c'est ça?
Ouais.
Ah oui, mais vous avez c'est même pas mis votre...
Moi, je suis pas sûr de l'environnement sonore que vous avez choisi. Non. C'est comme Pauline qui marche d'un pas lourd dans la neige.
Ben, c'est le concept.
Pourquoi elle est
c'est
lourde?
C'est parce que je vais tout vous dire. Là, c'est qu'à la base, le son, là, juste la voix de Pauline, il y a beaucoup de bruit dans l'ambiance.
Okay.
Fait que moi, je voulais la mettre dans une ambiance très bourgeoise avec de la musique de clavecin. Tout ça, et non, on entendait les gens parler par-dessus. J'ai dit donc, ça prend du son qui enterre le bruit d'ambiance, d'où la neige et d'où le loup à la fin. Ça vous aimez pas ça, finalement?
Ben, c'est pas ça, c'est parce que c'est vraiment difficilement justifiable. C'est très drôle.
Ouais,
mais
ouais.
Je veux dire, c'est juste...
Ben, c'est...
Moi, j'aime ça. Moi, je trouve ça vraiment bon.
OK, mais je pourrais vous mettre la musique d'Edgar Fruity à la place?
Non. Moi, je trouve ça très, très bon. Je voulais juste savoir pourquoi la neige. Je me disais,
ben,
est-ce qu'il y a une joke interne au Parti québécois où est-ce qu'il dit tout le temps comme ah, l'amour juste de Pauline avec
exactement.
La raquette,
c'est parce que vous êtes un libéral, vous êtes pas au courant de ça.
Bon, libéral, c'est un conservateur.
Écoutez, j'ai entendu dire, monsieur Aucoin, aussi que vous aviez des inputs à Pond Inlet au Nunavut. Il paraît que cette ville-là est assez much hockey.
Ben, j'ai des entrées à Pond Inlet, mais aussi ailleurs, qui me font dire que, selon des sources assez sûres, paraît-il que Pond Inlet est très hockey. Pond Inlet, c'est au Nunavut, pour les gens qui ne le savent pas. Et là-bas, il paraît qu'il y a un seul magasin, que c'est une coop, et que dans ce magasin-là, il y a une pièce qui est complètement hockey, c'est-à-dire qu'on trouve dans cette pièce-là que des items à l'effigie de Canadiens. Donc, Pond Inlet est hockey, difficile à croire.
C'est vrai?
Je vous le jure.
Mais il doit juste avoir des patinoires extérieurs, là, non?
Peut-être.
Mais bon, on n'irait pas pour tout l'heure du monde pareil. Après ça, j'aimerais que Yvan me commente la non-victoire de Guy Carbonneau lors de son trophée.
Moi, ça me tente pas, puis il reste pas beaucoup de temps. Fait que j'aimerais mieux qu'on parle de l'événement de la semaine. C'est la... Yann Danis qui va tester le marché des joueurs autonomes.
Oui, oui.
On lui souhaite bonne chance.
Moi, j'y mets une valeur directe. 6e rang.
Ouais. Ben, c'est pas un salaire, ça.
Non.
Les joueurs autonomes.
Je pensais que c'était, je sais pas, je pensais que c'était quand même une bonne valeur pour Yann Danis. 6e rang.
Moi, je lui prédis un avenir radieux dans la ligue semi-pro.
Ben, moi, je
nord-américaine.
En tout cas, c'est un gardien d'époque.
C'est un gardien?
Ben, je pense que oui.
C'est
ça. Bon. Alors, écoutez, on finit ça là-dessus.
On va pas parler de baseball.
Ben non, je sais, mais c'est comme ça. On est vraiment, on est tête-tête sur notre horaire. Fait que pour ceux qui auraient vraiment aimé s'amuser plus longtemps, ben, mangez de la marque.
Bonjour, ici Pauline Marois. Vous écoutez le podcast du Sportnographe.
J'attends tout le temps le coup de feu.
Je me suis retenu, en fait, parce qu'il y en avait un dans la première version. Oui.
Parce que c'est, en toute logique, j'aurais entendu un genre de... Puis il y a un hibou qui tombe.
Mais j'avais peur que le baron nous dise d'enlever ça pour des poursuites éventuelles.
Ben non.
C'est bien à la mode, les poursuites, fait que j'avais peur. Puis comme les revenus publicitaires chez Sportnographe ont diminué, c'est un message là.
À qui est nos publicitaires?
Un message directement à Acura.
On leur demanderait de vendre plus de chars.
Exactement.
Écoutez, on est en première période ici et c'est la folie furieuse dans l'aréna.
Moi, je
m'en peux plus, là. Yvan a même fait dans sa culotte.
Hein? Ah, c'est ça qui sent.
Il était tellement excité.
Bon.
C'était une blague, Yvan.
Ah oui, c'est ça.
T'as pas fait dans ta culotte. OK, bon, on revise ça. Là. Yvan a pas fait dans sa culotte.
Bon.
Cette fois-ci.
Coché.
Bon, écoutez, tantôt on a passé un peu vite sur le baseball, probablement parce que mes Orioles vont extrêmement bien.
Ah, probablement vous n'avez pas regardé le
classement. J'ai la liste ici et l'Oriole trône tout au haut.
Parce que votre feuille est à l'envers.
Le Toronto tout de suite après, le New York, le Tampa Bay qui est tout près de la cave et le Boston qui ferme la marche.
Ouais, ouais,
c'est et vraiment, et on a une fiche gagnante, le Baltimore 33-33. Ah, 33-33. Hein? Je m'en sors pas d'un côté ou de l'autre. C'est fâchant. Donc, écoutez, moi, mon Oriole va pas très bien récemment. Mm-hmm. On passe à travers des moments difficiles, nous, partisans du brun. Et qu'est-ce qu'on fait normalement? C'est qu'à Baltimore, il y a un petit bar qui s'appelle chez Maurice Taverne Pub.
Ah oui.
Et puis, on s'en va là boire de la bière entre partisans. Et puis, on chiale là, contre Coco Crisp et toute sa gang-là.
Coco Crisp qui s'est battu, qui a été suspendu après s'être battu avec les Rays. May Rays.
Oh, c'est
une grosse bataille. Ils se sont battus, puis ça s'est fini en bataille.
Ça s'est fini. Tout ça, c'est fini en bataille.
Ça a commencé en bataille, ça s'est poursuivi, puis ça a fini.
Mais la bataille, c'est ça, le baseball. Faut retenir de tout ça, c'est Coco Crisp.
Coco okay. Crisp.
Ça on pourrait peut-être le récupérer avec le Canadien.
Coco Crisp?
Ouais.
Moi, je pense qu'on pourrait l'avoir en entrevue la prochaine fois.
C'est bon.
Coco Crisp.
Je travaille là-dessus.
OK, good. Bonne chance.
Êtes-vous bilingue?
Oui, je suis bilingue. Parfait. Je suis capable de parler le Coco et le Crisp.
Okay.
Mais c'est facile à trouver hein, dans le bottin.
Ouais,
c'est Crisp, Coco.
Je ne sais pas s'il habite sur la rue des Orioles, lui.
Elle est bonne.
Lui. Personne ne la comprend, mais...
Non, c'est ça.
C'est ça.
Alors, comment va vos équipes, vous, PM? Ah.
Ben, c'est ça. Moi, je vous ai réservé une petite surprise, en espérant que vous soyez surpris un peu quand même.
Non.
C'est que depuis qu'on a parlé à un certain monsieur Doucet, qui nous a évoqué le nom de Duc de Longueuil, ben, ouais. J'ai décidé de ne plus prendre pour Rangers et de prendre pour Duc de Longueuil, qui, hier, a battu les Orioles de Montréal 5-1.
Je pense pas qu'on ait le droit de changer d'équipe comme ça. Ben, moi, j'aurais changé à avoir su.
Moi, c'était dans ma clause. Mais en même temps, ils ont joué contre les Orioles. Mais ça marche.
C'est où ce qu'ils jouent, les Orioles?
Parc. Là, vous me prenez au débribu. C'est au parc Marc Pratt. Je pense que c'est ça.
Marc Pratt?
Ouais, c'était quelque chose qui...
C'était à Longueuil ou à Montréal?
Je pense que c'était à Laval.
Les fameux, les Ducs de Longueuil contre les Orioles de Montréal.
Vous me faites dire n'importe quoi. Là. Je me sens un vrai journaliste.
Vous n'êtes pas préparé du tout.
Bon,
fait que moi, mes Ducs, ils vont très bien finalement.
Ben, bon. C'est pas juste. On compétitionne même pas dans. Puis moi, en plus, j'affronte une équipe de mangeux de boîte. Les Rays. Ben là.
Non, mais là, votre feuille, une fois mise à l'endroit, les Rays vont très bien.
Les Rays, ben, ils sont pas si loin que ça. Quand on regarde, là, ils sont à 5-8-2.
Non, ça c'est le retrait premier, deuxième arrêt court, je pense, hein? 5-8-2.
Ah oui, je sais pas, moi je pense...
Parlez dans le micro, là, Bruno me dit.
Ah oui, je sais pas.
Ah, là, on vous entend déjà mieux.
Non, mais on a quand même une série de une victoire et on se base là-dessus pour bâtir l'avenir du futur.
Comme les Ducs.
Alors, tout ça pour dire qu'il me reste 5 minutes ma chronique. Fait que... vous savez, la semaine passée, je vous parlais de ma passion pour...
Moto custom.
Oui, la moto custom. Et je m'en souvenais plus.
C'était une chronique très, très populaire. Hein?
Oui, ben, c'est parce que c'est aussi un sujet très populaire. Et vous vous rappelez du 2 au 6 mai dernier, vous me cherchiez. Hein? Je me rappelle, Piquette m'appelle. T'es où? Je réponds pas. Plo,
c'est qui ça? C'est le chum d'Alex de l'autre fois.
Meilleur A m'appelle. Il n'est pas capable de me rejoindre. Tout le monde se dit, mais il est où? Puis là, finalement, en fait, c'est parce que du 2 au 6 mai, moi, j'assistais à la première année de chasse au dindon sauvage. Comme à chaque année.
Vous avez assisté à la première année du 2 au 6 mai?
Ouais, ouais. Non, mais c'est la première fois qu'on pouvait chasser le dindon sauvage.
Ouais?
Et oui.
Vous nous en avez amené.
Alors, le dindon sauvage, on le trouve normalement dans un endroit où il a été semé. Et on peut, à partir de ce moment-là, chasser le dindon sauvage. Et il se reconnaît par son bout de gras rouge qui lui pend dans le cou, sur le nez, et aussi par sa huppette de gras rouge qui lui pend dessous le bec.
Ah, ça fait penser à quelqu'un, ça.
Qui? OK.
Mettre une cloche.
Puis comparativement à la moune fumée, est-ce que c'est plus difficile à chasser?
Ça sent moins fort.
C'est justement drôle que vous m'en parliez parce que je lisais justement un article extraordinaire, sur un compte-rendu d'ailleurs de notre semaine, dans la revue Technique Chasse-Pêche 30e anniversaire. Ouais. Et évidemment, bon, ben moi j'étais là avec tous ces gens-là, dont Donald Turcotte qui m'accompagnait.
Donald.
Mm-hmm. Non, lui c'est Donald.
Ah, ben on voit justement votre photo ici.
Alors oui, vous me voyez avec un dindon. Et Donald me disait dans son texte qu'il a pondu d'ailleurs lorsque nous étions ensemble, il dit justement, à la différence du chevreuil, ce n'est pas son sens de l'odorat qui est le plus développé chez le dindon, mais bien celui de la vue. Et c'est ce qui m'a aidé à faire la transition entre le chevreuil et le dindon. Et j'ai compris extrêmement, extrêmement rapidement. Et les gens rient, hein, mais...
mais vous saviez pas ça, vous?
Non, mais c'est pour ça que j'avais amené Donald, avec moi. Et vous savez, quand on approche, je vais vous montrer quand même une pièce d'équipement qu'on montrera à tout le monde ici. Pour chasser le dindon, le but, c'est de se fondre dans le décor et de ne pas réveiller le sens acuitif. Oh, de...
Vous n'avez pas peur de vous faire tirer dessus?
Non, mais encore une fois, c'est dans un environnement clos. C'est en arrière de chez Donald.
Les gens, nos auditeurs, ils ne voient pas.
Non, je sais,
décrivez
mais...
ça un peu. Là. On voit juste la face.
Alors,
mais
c'est
autour.
Comme si c'était, vous savez, le monstre dans les Fraggle Rock, fait de feuilles. Ben, c'est comme ça.
Ah.
Fait qu'il faut être déguisé un peu en monstre de Fraggle Rock. Et vous savez, quand on s'approche d'un dindon, c'est très difficile, hein, parce qu'un dindon, c'est enfin encore là, ça voit, hein. Puis contrairement au chevreuil. Et, et quand on s'approche de ça, il sac son camp. Alors, évidemment, le but, c'est de l'approcher et de le discuter avec lui. Non, mais vous riez, là, mais regarde, il dit, quand c'est fait, il faut entrer en conversation avec lui, et ce n'est pas une blague, en émettant des sons Yelp.
Faites tout en ça, ouais.
Alors, Yelp... OK, il faut, c'est identifié, ça c'est des cris de femelle, les yelp, OK? Bon, contrairement au mâle, où c'est le yap, 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 OK?
Okay.
Alors évidemment, très vous fait. Reconnaissez le spécimen devant vous. Alors, Paul va faire le mâle. Yap, tout est yap, yap, yap.
Yap, OK.
Fait que là, supposons que j'approche du mâle.
Yap.
Non, ça c'est encore là, c'est pas un chevreuil, c'est un dindon. Alors c'est yap, yap, yap.
OK.
Trois fois.
Aigu, un
oui,
peu quand
vas-y. Même. Yap, yap, yap. OK. Alors là, moi j'arrive, évidemment, dans mon suit et je réponds yelps. Mais il y a un S à la fin.
Ouais.
Yelps. Et là, évidemment, le but, c'est de te faire jaser jusqu'au temps que tu fasses glou-glou. OK.
Mais mettons que je ne veux pas parler trop longtemps, je fais glou-glou tout de suite.
Ben là, c'est à toi en tant que dindon, okay. Là, mais... Mais
mettons que je suis un dindon genre Jean-Charles.
OK. OK. Mettons que tu couches vite.
C'est toi un dindon?
Je peux pas te dire, j'ai pas... glou-glou, OK?
OK.
Ah ouais? Yelps!
Glou-glou.
Bon. Alors là, quand ça s'est engagé, c'est comme si on venait de le barrer, tu sais. Il attendait.
Le
ouais, on, exact. On l'a ferré. Comme un peu un chevreuil, mais pas pareil.
Il attend le swing du bat.
C'est ça. Alors là, quand on arrive, évidemment, le but, c'est d'avoir sa grosse carabine. Et il le conseille fortement d'acheter ici du plomb numéro 4, 5, 6 ou 4 et 6 en cuivre, principalement, pour être certain de manger un steak haché. C'est ça. Et dès qu'on l'a barré avec un glou-glou, on tire, puis il meurt. Et j'en ai pogné personnellement 3 comme ça.
Ah, on les voit.
Non, c'est autre chose. C'est un dindon en plastique qu'on amène aussi pour fourrer le dindon.
Est-ce qu'il glouglousse?
Non, c'est toi qui glouglousse. Évidemment, il y a plusieurs solutions. Okay. Et c'est pour ceux qui veulent vraiment, vraiment en apprendre, 30 secondes. Pour ceux qui veulent vraiment en apprendre, c'est dans la revue donc, Technics Chasse-Pêche de cette année, mais n'allez pas l'acheter car ça va voler mes autres sujets pour les prochaines semaines. Et, parce que j'en ai plusieurs autres, parce que je n'ai pas eu le temps de parler, évidemment, du texte de mon ami Michel Langevin. La semaine prochaine, on en parlera. Et aussi de ma passion pour la truite brune. Et vous savez, la truite brune, dans toute sa splendeur et couleur, c'est une photo qui nous est illustrée ici. Et évidemment, c'est avec mon ami Yves Laroche, avec qui je vais à la pêche régulièrement. Mm-hmm. Régulièrement. Et,
on va vous mettre du rouge. Là, ça...
Ben écoutez, je vous donne ça. Mais si vous voulez, n'oubliez pas le dindon, c'est tout un animal.
Okay. Peut-on pêcher en motocostum, juste pour conclure?
Oui. Mais à condition qu'elle ne roule pas.
Chasser, je voulais dire. OK.
Salut, ici Dave Morissette.
Cette période est une présentation des assurances Ressort. Les assurances Ressort, placement conseil, c'est ça, c'est sûr, c'est ça.
Les amateurs de sport, bonjour. Une présentation du site web Le Spornographe.
Spornographe. .com.
Hey, c'est Claude, ça.
Si j'avais les ailes d'un ange.
Hey, qui c'est qu'on reçoit en troisième période?
On reçoit Coco Chris.
Ah, tabarnouche, les contacts se sont fait aller.
Déjà. Il nous écoutait live.
Puis il a dit, je peux rentrer.
Même pas diffusé nulle part.
Il y a une webcam maintenant.
On niaise.
Okay, okay. Mais qui c'est qu'on reçoit, là?
On reçoit Yvon Pontant. On l'a rejoint cette semaine.
Au coin de la raquette.
Il était en train de se magasiner une raquette de racquetball.
Une
raquette de racquetball. Okay. Alors, on s'est dit, Yvan, ça te tente-tu? Puis il m'a dit oui. À moi?
Ah oui, c'est vous qui faites les contacts.
C'est moi qui fais les démarches. Je me suis dit, joue ma carrière là-dessus. Là. Si vous venez pas... joue ma carrière là-dessus. Fait qu'il m'a dit, inquiétez-vous pas, je vais être là en troisième période. Fait que vous pouvez être sûr qu'il va nous appeler.
Fait que dans le fond, je me suis stressé pour rien cette semaine quand je l'ai appelé. C'était vous qui le faisiez le contact.
C'était déjà fait, ça fait longtemps. Et joue ma carrière là-dessus. Ouais.
Moi, j'aimerais ça qu'il nous parle dans son langage de 30 images secondes.
Ben, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, hey, tu pourrais nous parler dans ton langage de 30 images secondes.
Habillé en chinois.
Puis là, il m'a dit, OK, man. Fait que c'est complètement capoté. On va recevoir un appel de lui. 8 minutes 28 à la chronique de Yvan Piquette. Vous savez, la deuxième période est toujours consacrée à un événement extraordinaire. Et j'ai nommé nul autre que l'homme de fer,
Brockett.
Yvan Piquette.
Brockett Piquette.
Alors, nous allons enchaîner immédiatement avec son fameux segment. Aujourd'hui...
La première d'une série de chroniques sur le repêchage 2008.
Ah. Une série, c'est pas comme la semaine prochaine?
C'est ça. Je vais vous parler des jeunes espoirs remplis d'étoiles dans les yeux qui pensent au gros argent de la Ligue nationale.
Est-ce que ça va être plate?
Oui. Et parce que je sais pas si vous savez, mais la semaine prochaine, c'est le repêchage de la Ligue à Ottawa.
Yes, avec le nouvel entraîneur.
La ville néon.
Ottawa avec le nouvel entraîneur.
Ben oui, oui.
Ouais.
Suivez pas vos nouvelles.
Canadien va être là. Choisir un gars qu'on n'avait pas pensé à.
Et en quelle position?
Mais moi, j'ai quand même une liste de gars.
À penser à.
C'est ça.
Mais à quelle position il repêche, Canan?
25.
25.
Oui. Fait que j'ai regardé le classement des joueurs nord-américains, sud-européens pour essayer de trouver ceux qui fitteraient le plus avec Canadiens selon des facteurs très pertinents, genre le nom, le prénom, la ville d'origine.
Une triangulation assez complexe.
La ressemblance avec Matt Higgins et Brent Bilodeau, ce genre de trucs-là.
S'il y a un cas
de Terry Ryan aussi.
Est-ce que vous avez calculé le facteur K?
Non. Comme Canadien, il choisit au 25e rang, comme on le disait, on risque de se ramasser avec de la scrap. Fait que j'ai quand même pas évalué Steven Stamkos. Fait que on parlera pas des joueurs excitants. Là. On va y aller tout de suite avec le 16e rang, qui est Zach Dalpé.
Pourquoi 16e rang, ce Canadien, il repêche au 25e?
Ben, c'est parce que c'est le 16e rang nord-américain. Fait qu'il y en a comme des Européens, des goalers là-dedans. C'est tout compliqué. Là, je comprends rien. ce qui est spécial avec Zach et qui en ferait un excellent candidat pour le Spornographe, c'est qu'il a commencé à jouer au hockey à Paris, qui est d'ailleurs sa ville natale.
À Paris, Ontario.
Évidemment, on ne va pas tomber dans la facilité. Il y a un Real Senior qui m'a donné ce conseil récemment autour d'une bière. Il m'a dit « Ne tombez pas dans la facilité. » C'est ça. Et j'aimerais dire à Senior, d'ailleurs, que je vais la faire, sa moustache, dans Photoshop, quand je vais avoir trouvé mon Photoshop.
Mais je pourrais vous donner le mien si vous voulez.
Non, je pense que le vôtre fonctionne avec Windows. Et il doit probablement être rempli de virus.
Avez-vous des spyware, vous?
Nous, personne
du Mac, cas isolé.
Ne connaissons pas les spyware.
Mais je connais la source. Hein.
C'est vrai?
Ouais, mais je ne la dirai pas en onde. Okay. La personne en tant que telle le sait.
Ange.céleste.
Donc, on ne tombera pas dans la facilité, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas Paris en France, c'est Paris en Ontario.
Je l'ai annoncé, mais je ne l'ai pas volé votre punch, vous aviez des jokes à faire.
Mais Paris, c'est juste à côté de Brantford, la ville de Wayne Gretzky, fait que ça serait quand même pas pire d'avoir un gars qui est presque comme Wayne Gretzky.
Qui a probablement arrêté dans le même SO que Wayne Gretzky.
Puis on le sait, le talent, ça se propage dans l'eau, donc s'il habite pas loin de chez lui,
c'est ça, chance de... Ils ont tous les deux commencé à jouer au hockey Timbits, comme tout le monde, à 3-4 ans, c'est écrit. Dans
chez Tim Hortons?
C'est le moment fort. C'est comme le mag là-bas, là, dans le fond.
Moi, je connais pas ça, j'ai commencé à patiner à l'âge où j'aurais été senior.
Et bon. Ça paraît, oui? Oui.
OK.
Au 21e rang, il y a Nicolas Deschamps. Lui, c'est un petit gars de Delson, qui est une maudite belle place pour élever des enfants ou des vaches, et qui jouait cette saison-ci pour le Chicoutimi, qui est en banlieue de Bagotville.
C'est une méchante belle... Moi, je suis allé à l'aréna de Chicoutimi récemment.
OK.
C'est ça.
Deschamps, il est un petit peu retardé parce qu'il a été repêché à sa... il n'a pas été repêché à sa première année d'éligibilité dans la JMQ.
Oui.
mais même s'il est un peu retardé puis que le Canadien aurait tendance à prendre un joueur retardé, on va arrêter d'en parler parce que les Québécois, ils n'ont pas leur place chez le Canadien.
Retardé ou attardé?
Ben, c'est ça, c'est un peu mélangeant. Là, c'est...
On va lui donner le bénéfice du doute.
C'est un hybride.
C'est un vieil attardé.
Les deux joueurs qui fitent le plus avec le Canadien, selon mon avis d'expert,
qui a été rédigé à 6h du matin, je ne me trompe pas.
Quelque chose comme ça.
Il m'a dit 4h tantôt.
C'est Jake Gardiner et Aaron Ness, qui sont classés 23e et 27e au classement mondial du monde. C'est quoi qui ont de spécial, ces deux gars-là?
C'est deux anglophones.
C'est pas spécial tant que ça.
Non,
c'est deux ticounes du secondaire états-uniens et c'est des défenseurs. Ce qui n'est pas sans rappeler les Mike deux ticounes du secondaire états-unien défenseurs que le Canadien a choisi lors des deux derniers repêchages.
Excitant à virer fou.
ça sent la coupe plus jamais.
Gardiner, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur lui. Il est bon pour poker. Fait que.
il va être un as sur Facebook, si on dit ça.
Ben, le baron, il essayait de devenir ami avec Gardiner, mais il y en avait 32 différents. Fait que c'est pas trop facile, mais il s'est rabattu sur celui qui était à poil et qui cachait ses couilles avec ses mains sur sa photo. Ça doit être
C'est sûrement lui.
Puis Aaron Ness, lui, il est petit, il est maigrichon, il est pas capable de déplacer un gars qui traîne dans ce slot. Puis c'est pas mal ça. C'est pas
vendu.
Ça nous le prend.
C'est son coach qui l'a décrit comme ça. Et,
dans ces termes-là.
Ouais, mais il dit qu'il est très bon en dehors de la patinoire. Fait que ça fit parfaitement.
Impliqué dans la communauté
canadienne. Parce qu'il nous manque quand même notre Craig Rivet.
Ouais.
Il y a plusieurs Aaron Ness sur Facebook. Le baron a choisi celui qui est habillé en camouflage. Et d'ailleurs, c'est le même que pour le dindon sauvage. Et il y avait des canards morts aussi sur la photo.
C'est un peu la même chose, sauf que moi, c'est des.
C'est ça. Du côté de l'Europe, il y a vraiment un choix qui s'impose, même s'il sera probablement plus disponible quand le Canadien va se décider, c'est Kirill Petrov, qui est le fils de l'autre.
Sans blague.
Non, avec blague. on dit de lui que c'est un mangeur de puck, mais qu'il a les mains douces comme de l'eau de roche. Mais
ça, c'est vous, ça, qui ajoutez
non,
ça,
mais je pense que c'est une mauvaise traduction du russe. qu'est-ce que vous faites avec votre bière, ça?
Est-ce que vous m'entendez? est-ce que vous m'entendez?
Moi, j'entends rien.
Ici le bonhomme carnaval.
Vous sonnez comme en direct de chez Sport Boutin.
Oui, mais c'est parce que j'avais mis mon verre de bière Molson sur mon micro.
Aviez-vous vidé la bière de dedans?
Non.
Ah. Alors, Petrov, là, y a un expert qui dit qu'il était capable de conserver la rondelle aussi longtemps qu'il le veut à la manière de Georges Larac. Et ça m'a fait penser...
ça
m'a fait penser un peu à vous, Munger, au Hockey Cosum, qui avait une petite tendance à jouer du style Parc La Fontaine avec le dos au jeu. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Mais j'ai vu aussi une autre place qu'il comparait à Ovechkin.
Ouais, ça serait
alors,
méchant.
Alors, c'est comme Larac, un mélange Ovechkin. De Larac, Munger et Ovechkin, ce qui est assez explosif, quand même. Et d'ailleurs, dans les descriptions des joueurs éligibles au repêchage, ils ont tous quelque chose d'explosif, c'est fascinant. Parlant d'explosion, là, j'ai regardé un autre point que je voulais parler, c'est le hockey arabe.
Ça, c'est explosif, ça, mes amis.
Je pense que ça serait temps que le Canadien envoie un dépisteur en Afrique du Nord. Par exemple, il y a l'équipe nationale algérienne qui regorge de talent et on n'a qu'à penser à Yacine Fahar.
Telle une bombe, le décompte s'en vient près de zéro.
Jamel Bouadouf. c'est ça. Bon, ben on va skipper le reste des Arabes. je m'arrivais justement à ma chute.
Ben, allez-y,
justement,
on va vous ramasser.
Vous disiez que j'avais pas de chute pour mes chroniques, eh bien, je vais poursuivre dans la tradition et arrêter de là.
Bon. Mais ça s'améliore quand même.
En fait, ça continue un peu, là, mais...
Ben, allez-y.
Non, mais je voulais juste vous donner des beaux noms qu'il y avait dans la liste, là, comme Michael Delzotto, qui vient, lui, de Stouffville. Il y a aussi Cody Gouloubeff, Lance Bouma, Anthony Nigro, Brett Tréberge, et Brock Monpetit.
Moi, je prendrais
Monpetit.
Brock Monpetit.
J'imagine mais, Michel Lacroix.
Mais
non, c'est ça.
Là, on est all over the place, man.
Yes. Ah, mais je vous ai pas parlé des goalers.
Ouais. Mais ce sera la semaine prochaine.
Non,
mais
c'est pas
grave de toute façon parce que le Canadien va gagner Carey la Price coupe avec Mariah Carey.
Oh, yeah.
Bonjour. Ici Patrick Lagacé, vous écoutez le podcast du Spornographe, le Ron Fournier de l'absurde sportif.
Allô?
Encore une fois cette semaine, dans cette troisième période de Parlons Podcast, on va tenter de gonfler notre crédibilité tous ensemble en essayant d'en apprendre un peu plus sur une activité autre que le hockey. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, c'est le tennis. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une activité socio-communautaire? Eh bien, une seule personne nous semble être en mesure de répondre à toutes nos questions sur le sujet, et j'ai nommé Yvan Ponton lui-même, qui présentement ne répond pas au téléphone. Alors, c'est Jean Dion qui a accepté de le remplacer à pied levé. Bonjour, Jean Dion.
Bonjour, et à la fin, je vais vous dire « ciao ».
Ah, ben ça, c'est parfait, ça.
Justement, on n'a pas jugé bon refaire nos questions pour rien, comme on vous savait omnipotent et omniscient. On s'est dit que vous alliez être capable de répondre à toutes nos questions concernant le tennis. Et puis, je laisse Jean-Philippe. Je me trompe tout le temps, je nomme tout le temps les vrais noms, je suis comme pourri. Je laisse Paul Meilleur poursuivre avec les questions.
Ben, Monsieur Dion, en fait, Monsieur Ponton.
Monsieur Dion.
Monsieur Dion. C'est ça. Première question qui va de soi dans pareilles circonstances. Est-ce que le tennis est un sport?
Ben oui, c'est un sport, quand même. Il n'y a pas juste le hockey dans la vie.
Ah non, mais vous nous décevez, là.
D'ailleurs, les tennismans sont de... Les tenniswomen sont de grands athlètes de façon générale. C'est un sport qui est très, très exigeant physiquement. C'est pas mon sport. Personnellement, c'est pas mon sport préféré. Je trouve la chose un peu redondante. Hein? C'est personne en avant, l'autre qui met la balle dans le rectangle. Mais enfin, chaque année, quand même, j'ai l'occasion de couvrir les internationaux du Canada qui se déroulent au stade Uniprix du Parc Jarry.
Ah ben justement, on cherchait un correspondant pour ça.
C'est quand même agréable à couvrir parce que c'est moins On a une idée du tennis un peu comme étant un peu guindé, hein. On sait que bon, il y a certains décorums, les spectateurs ne doivent pas manifester pendant le jeu, quoi qu'il y ait des hurluberlus, je serai poli, qui à chaque année au Parc Jarry essaie de déclencher une vague dans les gradins. Je trouve ça carrément ridicule, mais enfin. Donc, c'est un sport qui est moins guindé, je dirais, que la Formule 1, par exemple. Alors, les athlètes sont quand même plus facilement approchables et, en général, fort sympathiques. Je pense à des gens comme Raphaël Nadal, par exemple, ou Roger Federer, évidemment, qui sont d'agréables personnages. Et pour ce qui est de Nadal, d'ailleurs, il y a une anecdote intéressante, c'est que lorsqu'il est arrivé pour la première fois, c'était il y a 3 ans, je pense, il venait d'exploser sur le circuit masculin. C'était la première fois qu'il venait à Montréal. Et il donnait après chaque match, il donne des entrevues avec les journalistes. Et Nadal parlait un anglais vraiment horrible. Il y avait à peu près 18 mots dans son lexique. Et il y avait un traducteur sur place, et si Nadal avait voulu répondre en espagnol, il y avait quelqu'un pour traduire, et ça aurait été probablement beaucoup plus intéressant. Ses réponses auraient été plus riches, si je peux dire. Mais il insistait pour parler en anglais, de sorte qu'on se retrouvait avec finalement pas grand-chose à écrire quant à ses commentaires. Mais bon, c'est quand même fort agréable. Mais moi, ça me rappelle aussi toujours le Parc Jarry, évidemment, ça me rappelle de belles années de baseball dans le temps. Dans le temps que les expos jouaient là. Ça n'a plus grand-chose à voir, évidemment. Le site a été complètement transformé, mais il reste encore la piscine qui était située de l'autre côté du champ droit. Et
ça existait à l'époque?
La piscine, oui.
Est-ce que les gens frappaient des circuits dans la piscine?
Ça arrivait de temps en temps. Évidemment, ça prenait des coups assez longs. Mais Willie Stargell, des Pirates, par exemple, on avait réussi quelques-uns, au moins deux à ma souvenance.
Est-ce qu'on sait s'il y avait quelqu'un dans la piscine à ce moment-là?
Oui, il y avait des gens dans la piscine parfois.
C'est d'où un sport dangereux. Il
fallait juste que tu suives la game.
C'est ça. Dans ta petite radio dans la piscine, probablement.
C'est ça. Alors qu'elle disait, la balle est frappée solidement au champ droit, tu plongeais dans le dos.
C'est ça.
T'attendais que ça passe.
Tu mets ton casque de bain et tu te coules dans l'eau.
Mais vous disiez tout à l'heure que le tennis est un peu redondant dans la mesure où est-ce que c'est tout le temps le même un contre un avec une balle qui traverse. Est-ce que vous aurez des suggestions pour améliorer ce jeu-là? Comme par exemple, je sais pas, mettre des trous d'eau, des haies.
Ou des suggestions pour le rendre plus à hockey, peut-être.
Ouais, c'est ça.
Du steeple tennis.
Ouais, c'est ça.
Ben, en fait la variante qu'on a, évidemment, ce sont les différentes surfaces qui permettent d'offrir un jeu vraiment différent d'une fois à l'autre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Federer s'est fait battre pas mal d'aplomb en finale de Roland-Garros, les internationaux de France. Ça s'est terminé 6-1, 6-3, 6-0, si ma mémoire est bonne.
Ouais, ouais.
C'est parce que Federer, sur terre battue, ça marche pas. Il l'a pas. Il a beau être le meilleur joueur au monde et dominer sous plusieurs aspects, sur terre battue, ça marche pas. Il a jamais gagné. Il a gagné tous les autres tournois majeurs. Il n'a jamais gagné les internationaux de France. Par contre, il excelle sur le gazon. Il excelle sur les surfaces dures. Mais évidemment, à Montréal, on a toujours la même surface. Hein. Alors, ça ne varie pas beaucoup d'une année à l'autre.
Sauf la fois où est-ce qu'il l'avait peinturé en mauve. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour vraiment...
Ben, c'est encore comme ça.
Oui, c'est encore comme ça.
L'an dernier, oui. C'est une nouvelle surface qu'ils avaient adoptée. Et ben, c'est beau, du beau violet.
Ça
fait ressortir le mollet.
ça fait ressortir le galbe.
Oui. Une question existentielle, M. Ponton. On se demandait l'utilité de faire bondir la balle avant de servir au tennis, là. Qu'est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce que c'est ça?
Ouais. faudrait demander aux joueurs eux-mêmes, mais c'est un tic. Et je ne me souviens plus quel joueur ou quelle joueuse, mais je les avais comptés une fois et il y avait fait quelque chose comme 17 fois rebondir la balle avant de...
C'est la maladie mentale, ça.
Avant de la jouer. Non, c'est comme un rituel, c'est une habitude, et pour établir sa concentration, on dirait, juste avant de servir, les joueurs Les joueurs ont besoin de ça.
Nos fanatiques nous ont posé des questions, puis on aimerait que vous répondiez pour Yvan. Donc, la première, c'est Monsieur Ponton. Dans quel film avez-vous préféré jouer? Slapshot ou Les Boys?
Oui, ben il faut dire que dans Slapshot, il y avait un rôle, disons, plus marginal. Je ne me souviens même pas. Je pense qu'il ne parle même pas. Hein.
Mais en année, je pense qu'il dit qu'il a fait pipi dans ses culottes quand il s'est frappé sur la bande.
Mais moi, personnellement, en tant que Dion, je vais toujours préférer Slapshot, qui est un des grands films sportifs de toute l'histoire. D'ailleurs, je pourrais vous en citer des extraits. Concernant Suzanne, puis je vois votre réaction, vous savez de quoi je veux parler. Et aussi le fameux quand est le temps, qui lorsque McCracken le traite de. Et j'ai répondu aussi, entre autres, dans la salle de rédaction du Devoir, dont vous pourriez savoir qu'elle n'est pas aussi guindée qu'on pourrait le penser.
Non,
j'ai aussi répondu.
On veut des noms.
Mais vous êtes folle! Vous êtes une petite folle, Chris!
Ouais, non, il n'y a pas vraiment de combat entre Slapshot et les Boys.
Que vous moi, Slapshot, je l'ai vu à peu près 40 fois et je ne m'en lasse jamais.
Il y a une question qui vient de MS Star. Une question très à propos, vous allez voir. Il demande, comment est-ce possible que le National de Québec ait remporté la Coupe Stanley contre Canadiens alors que les deux clubs se situent dans l'Est?
Bon, il faut faire un peu d'histoire. Il n'y a pas de... L'ancien compte a été diffusé au milieu des années 80, mais on n'y indique pas vraiment à quel moment on se situe. Hein. Est-ce que c'est ces mêmes années ou est-ce que c'était un peu avant? On ne sait pas. Et ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'en 1980-81, inclusivement, la Ligue nationale ne fonctionnait pas avec des... bon, il y avait des divisions, il y avait des conférences qui s'appelaient pas Est-Ouest, mais qui s'appelaient Prince de Galles et Clarence Campbell.
Ouais,
et lorsqu'arrivait le temps des séries, on prenait les 16 meilleures équipes, et c'était 1 contre 16, 2 contre 15, etc. De sorte que il n'y avait pas de découpage géographique. Et c'est pour ça que, par exemple, vous étiez bien jeunes, vous tous, mais si vous vous souvenez, par exemple, en 80 ou en 81, le Canadien avait affronté les Oilers d'Edmonton au premier tour.
Ah oui?
Vous souvenez, en 79, le Canadien avait joué contre les Rangers en finale. Et l'année d'avant, c'était contre Boston. Dans ce système-là, c'était tout à fait possible que ça se produise. Et bon, les Nordiques n'ont juste d'arriver dans la Ligue nationale, mais il aurait été quand même imaginable avec ce format-là, que Montréal et Québec se rencontrent en finale de la Coupe Stanley. Sauf qu'à partir de 81-82, qui a été d'ailleurs la première fois où les Canadiens et les Nordiques se sont rencontrés en série, on a changé la formule et là, c'était des affrontements par division et par association. Mais avant ça, c'était des divisions. Les divisions ne servaient à rien puisqu'on réorganisait toutes les équipes de 1 à 16 au moment des séries. Et d'ailleurs, les divisions elles-mêmes étaient, je sais pas pourquoi on les avait faites comme ça, mais c'était un peu fait n'importe comment. Le Canadien, avant d'arriver dans la division Adams avec Boston, Buffalo, Québec et Hartford, était dans la division Norris avec Détroit, Pittsburgh, Washington et Los Angeles.
C'est régional, c'est un découpage régional.
Et les divisions ne servaient d'autant plus à rien que c'était un calendrier équilibré. Chaque équipe, il y avait 21 équipes, chaque équipe jouait 4 matchs contre chacune des autres. Alors, c'est pour dire que ça aurait pu se produire. D'ailleurs, les Islanders, lorsqu'ils ont gagné leur première Coupe Stanley en 1980, en finale, ils jouaient contre Philadelphie.
Ouais, on essayait de... En fait, c'est parce qu'on essayait vraiment de prendre Régent Tremblay en erreur. Mais
ce que je pense, par exemple, c'est que... Je sais pas si vous vous souvenez des premiers dans ces comptes, mais... le National jouait souvent contre Boston, hein?
Oui, ben c'est pas vrai.
Ils jouaient tout le temps contre Boston.
J'ai l'impression que c'est parce qu'ils avaient acheté une batch de chandails.
Moi, je pense que c'était un budget de costume qui avait été épuisé, tout simplement. Je joue tout le temps contre Boston, puis en plus, ils ont pogné Boston en finale encore.
Je pense qu'ils ont pogné en première ronde et en troisième.
Et on n'y voyait jamais le Canadien, parce que à l'origine, ce que Jean Tremblay voulait faire, c'était une série avec l'équipe du Canadien, fictive. Et le Canadien avait refusé.
Donc, il s'était retourné vers les Nordiques?
Qu'on utilise son nom, ses couleurs, etc. Alors, ils avaient toujours se tourner vers une équipe de Québec.
Ah, mais quand même, ça a fondé, je dirais, un mythe. Puis les gens, je pense que les gens se souviennent des Nordiques contre une équipe comme une équipe gagnante à l'époque de la série télé. c'est grâce au National, rien de
ce
moins.
Ce que la fiction peut faire. Hein?
une dernière question que je trouve excellente, qui a été proposée par le 2 de pique, qui demande à M. Ponton, à l'époque où est-ce que vous arbitriez dans la LNI, lorsque vous donniez 3 pénalités à une équipe, étiez-vous obligé d'en décerner 3 à l'autre équipe également pour niveler les chances?
Comme au hockey.
Comme dans la Ligue nationale.
Oui, tout à fait.
C'est ça.
Ben, merci beaucoup, M. Ponton. Et on vous revoit à RDS la semaine prochaine.
Ça m'a fait grand plaisir. Et encore une fois,
ciao!
Ciao!
Merci.
Ciao!
Ici le gros cave, Jean-François Mercier. Vous écoutez le podcast du Spornographe.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, ton un était trop beau, l'été qui s'achève, tu partiras.
Faudrait que vous mettiez vos lunettes.
À 100 000 lieues de moi.
En tout cas.
Ouais.
Hey, quelle entrevue. Pareil, hein? Et là, il nous reste moins de quelques secondes avant que le 5 minutes se termine. Et pèsez sur start, là, question qu'on ait.
On va se peser 10 minutes. Là.
Bon, c'est pas grave. À 5 minutes, je crois comprendre qu'il va rester 5 minutes de moins.
Vous êtes fort.
J'ai déjà fait des cours de mathématiques. Vous savez, c'est le temps de la fusillée de la semaine. Ouais. Et pour cette fusillée, on a un palmarès concocté par Paul Meilleur au coin.
Ouais, là, j'ai de la pression parce que la semaine passée, vous avez, je pense, trouvé que mes citations n'étaient pas très bonnes.
C'est pas ça, c'est parce que vous aviez mis en première position une citation qui était loin d'être comique. Comprenez?
Non, mais c'est comme la neige avec Pauline.
Non, la neige, ça, je trouve ça bien bon. Je voulais juste que vous me justifiez le pourquoi. Parce que je pense
que vous m'avez pas laissé le temps de me justifier par rapport à ma citation poche de la semaine passée.
Elle aurait pu être drôle par la suite.
Elle aurait pu être drôle, c'était du deuxième degré.
Vous auriez pu vous ajouter au montage après.
C'est ça.
Ouais. J'avais plus de cloche. La première citation vient de Martin Lemay. Et je précise qu'il n'est pas une femme. Ça aide à comprendre la phrase, la citation.
Et qui c'est qui nous a soumis ça?
Et c'est ça. Et on écoute la citation tout de suite.
OK.
Même si t'es bien planté devant moi puis je suis gardien de but, là, jamais, jamais, jamais je mettrais mon bâton d'hockey dans tes parties intimes. C'est une ligne que je ne traverserai jamais. Je suis un homme contre mes principes.
Voyez, c'est un homme contre ses principes.
Non, il y a l'accent tonique qui est placé. Il faut faire attention, le Martin, c'est un expert. Là. Je suis un homme. Je suis un homme. Donc, c'est contre mes principes.
Ah, OK.
D'où l'explication que celui qui a fourni la citation a ajouté, Martin Lemay, qui n'est pas une femme.
OK, parce mais c'est qui a soumis la citation?
C'est Plot.
Non, c'est Badaboum 2.0. Ah non. Ah, je comprends rien.
Il y a 1, 2, 3, vous n'êtes même pas capable. Deuxième citation, Gabriel Grégoire. Et là, le contexte ici, là, égal à lui-même. Ça va vous aider à comprendre la citation. Et Bruno pèse là-dessus.
Je m'ennuie du temps où est-ce que les citations étaient vraiment faciles à comprendre.
Ouais. Montréal, qui est un des plus chauds, les plus écoutés planétaires, doit dire à la FIA, on a honte, puis il faut que Mosley sorte de là.
C'est Montréal, c'est le plus écouté, mais planétaire. Ouais. Wow.
Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine, on se la retape, OK?
Oui, OK. Ouais.
Montréal, qui est un des plus chauds, les plus écoutés planétaires, doit dire à la FIA, on a honte, puis il faut que Mosley sorte de là.
C'est clair comme d'autres roches, c'est là qu'il faut
Montréal, c'est le plus chaud planétaire.
Ouais.
Ça, on oublie ça souvent quand on est à Montréal.
Donc, c'était Gabriel Grégoire, égal à lui-même, on aura compris. Et la première citation est toujours de Gabriel Grégoire, mais là, il est accompagné par Daniel Poulain. Tantôt, Piquette, vous demandiez hors micro qui était Daniel Poulain, et je ne sais pas. Donc, Daniel Poulain et Gabriel Grégoire à 110% et c'est soumis par Badaboom 2.0. Et on écoute ça.
Le fouettage de Foufoun ne me fasse pas du tout. La connotation nazie est choquante.
Les fouettages de Foufoun ne jump pas. Mais va chier ton fouette, mon poulain, on va essayer ça.
C'est bon, hein?
C'est chic.
C'est chic. Est-ce que vous aimeriez ça, vous faire fouetter le foufou par Gabri?
Moi, je précise là, que Gabriel, il dit pas fouetter. Il dit fouetter, en fait. Il dit foutage. Il faudrait se faire fouetter.
Fouetter. Se faire fouetter par Gabriel.
Mais ça, j'aimerais ça. Fouetter, non.
Mais fouetter, oui. Fouetter, je suis pas sûr que c'est vraiment plus... c'est vraiment... Je pense que c'est plus cochon statique.
Avec Gabi...
Ben c'est vos affaires, hein? Si
c'est
vous
mes
êtes,
orientations.
Ouais, c'est votre problème. Je suis un homme.
donc, je mets pas mon bâton.
Non, moi, c'est ça. Comment il dit ça, Martin?
Je suis un homme, c'est contre mes principes.
Je suis un homme, c'est contre mes principes.
Mais ça, on sent que c'est un homme qui se tient droit, Martin. Je pense qu'il est candidat, d'ailleurs, dans le quartier Beaudry, Martin Lemay, hein?
Candidat
pour, je sais pas quel parti, pour le PQ.
Pour vrai?
À moins que ce soit un autre Martin Lemay, mais il y a un Martin Lemay qui est candidat, qui était
il
candidat
était
aux dernières élections.
Il était conseiller municipal.
Oui, c'est lui. Bon, ben, je pense que c'est pas mal la fin de cet interminable podcast.
Oui,
qui,
ben,
au montage, aura
de l'air bien normal. Mais nous, on est ici. Quand on est arrivé, il faisait clair. Et là, il fait encore clair. C'est pour vous dire, hein, on a fait le tour de l'horloge. Mais alors, je me demande donc, qu'est-ce qu'on pourrait parler la semaine prochaine?
C'est moi qui vous dis.
Non, mais c'est parce que j'allais dire qu'on pourrait peut-être recevoir Yvan Ponton encore.
Oui, non, mais au pire, on invitera Jean Dion, il pourra pas, puis on invitera Yvan Ponton en backup.
C'est bon, ça.
Okay.
La semaine prochaine, on revient sur le repêchage de Brock, mon petit. Et on vous donne notre recette de dindon sauvage.
Qui glouglousse.
Aux petites billes plombées. Bon appétit.
C'est ça.